Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon en crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience sur 2 années et demie de gestion de pré. Alors, premièrement, j'avais déjà fait un épisode sur le sujet, c'était l'épisode 57, où je vous parlais de la mise en place de pâturage tournant, donc ce qu'on a fait dans notre pré, et le retour d'expérience sur 6 mois de pâturage tournant. Même pas 6 mois, parce que c'était de mémoire avril, mai, juin, juillet, donc 4 mois de pâturage tournant. Là maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait du pâturage tournant, 2 années complètes, donc je peux vous en parler. Alors je vais commencer par une petite remise dans le contexte, parce que je me doute que tout le monde ne va pas aller écouter l'épisode 57, et puis que du coup il s'est quand même passé des choses depuis cet épisode qui est sorti il y a 1 an et demi. Alors ça fait maintenant ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans et demi qu'on est installé dans notre pré, donc depuis novembre 2021. On est arrivé grosso modo au 1er novembre 2021. Donc on finit en fait notre 3e hiver au pré et on attaque notre 3e printemps. Donc on a passé 2 printemps et 3 hivers. Depuis le début, on a 3 chevaux sur 2,5 hectares. Depuis plus d'un an et avec le confiage d'Alpha, on est 3 humaines pour 3 chevaux. Avant, on était 2 humaines pour 3 chevaux. On a un pré qui est, on va dire, de la semi-autogestion. J'explique. L'agriculteur qui nous loue le pré nous apporte le foin en ballot et l'eau en citerne. Et nous, on s'occupe de distribuer le foin et de remplir le bac à eau. Et on parcelle la prairie comme on veut. Les clôtures extérieures, c'est un sujet que j'aborderai pas ici. À notre arrivée, il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas de parcelle dans le pré. On avait, en gros, on a un gros rectangle de 2,5 hectares. C'est un gros rectangle qui fait, je crois, 120 mètres de long par 70 de large. 90, je sais plus exactement, mais c'est un gros rectangle à peine plus large que long. Et la première chose qu'on a mis en place quand on est arrivé, c'est un paddock d'hiver. Donc, on a un paddock d'hiver qui fait 0,9 hectares, il me semble. Donc, grosso modo, 100 mètres de long par 10 mètres de large. Donc il prend toute la longueur de notre pré. Et ensuite, dans le reste, on a fait 8 parcelles de 0,2 hectares chacune. Et le système de rotation de parcelles, il est fait selon la quantité d'herbe qui est disponible dans chaque parcelle. Et pour le système de rotation de parcelles, je l'avais pour le coup plus détaillé dans l'épisode 57, donc j'en reparlerai pas trop ici. On a un sol qui est sableux. On est sur du sable de Fontainebleau, s'il vous plaît. Pas encore du Clément Toubin, mais on est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc c'est un sol sableux, c'est une végétation de prairie qui est en place depuis, il me semble, 20 années. Il y a une gestion sans pesticides et avec très peu d'engrais. C'est-à-dire que la première année, l'agriculteur nous a dit « Oui, je vais vous mettre de l'engrais en granulé, en bi. » Il nous a dit « C'est bon, j'ai mis des granulés. » On les a jamais vus. Hein. Donc bon. On va dire, grosso modo, avec très peu d'engrais. Et la fauche des refus se fait une fois par an. Et nous, en tant qu'humaines, il y a au moins un passage d'une humaine par jour. Des fois, il y a 2 humaines qui vont passer dans la journée, des fois, il y en a 3, mais il y en a au moins une qui passe par jour. Voilà pour la mise dans le contexte. Ensuite, je vais vous faire mon retour d'expérience sur 4 points qui ont été pour moi du plus évident, des points au point où j'ai le plus appris, on va dire. Les 4 points, ça va être la santé de mon cheval, l'herbe, le sol et les humaines, grosso modo. Donc, c'est parti. On attaque par le retour d'expérience sur la santé de mon cheval. Alors, ça va être assez simple, ça fait 2 ans et demi que Whisper n'a vu le vétérinaire que pour les vaccins. Voilà. Donc bon. Et les deux autres chevaux, bah, Alpha a eu des ulcères gastriques, mais où honnêtement, on n'était pas vraiment en lien avec la gestion du pré, on est sur de l'émotionnel. Et Happy nous a fait un accident avec une branche dans l'œil. Ça, encore une fois, c'est pas vraiment la faute du pré. Enfin, pas vraiment la faute du pré s'il y a eu un tel accident. Il aurait pu se faire cet accident ailleurs, dans un box, dans une prairie classique. Enfin, voilà. Donc, vraiment, je suis ultra ravie de la santé de mon cheval depuis qu'on est dans ce pré. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pourriture de fourchette, on n'a plus de gale de boue. Un poids qui est stable au cours de l'année. Il n'a pas fait de crise de Lyme. Il n'a pas fait de crise de PSSM. On n'a pas eu de fourbure. J'ai déjà dit, je crois, le poids qui est stable au cours de l'année, mais ça, c'est vraiment ultra important pour moi. On n'a pas une grosse prise de poids au printemps et une grosse perte de poids en hiver. Et pour moi, le gros point qui joue là-dedans, c'est l'alimentation qui est plus équilibrée que dans les parcelles où on était avant. Dans les pensions où on était avant, en fait. L'alimentation est plus équilibrée parce que vu qu'on gère l'accès à l'herbe, il n'y a pas de grosses variations, en fait, dans son alimentation. Il n'y a pas de moment où on est au foin et où, le lendemain, ils vont passer sur une herbe ultra riche de 5 à 10 cm. Et en plus de ça, vu qu'on passe tous les jours, on distribue une ration de compléments tous les jours. Donc, tous les jours, il a son complément minéraux, vitamines, potentiellement protéines en hiver. Donc vraiment, sur la santé de mon cheval, je vois les effets. On a une santé qui est stable. Voilà, on a toujours des petits problèmes, etc. Mais vraiment pas beaucoup. Non, je dis qu'on a des petits problèmes. Faut que j'arrête, en fait. Faut que j'arrête de dire qu'on a des petits problèmes. Oui, mon cheval prend 20 kilos au printemps. Il en perd 20 à l'hiver. Mais c'est honnêtement des variations de poids qui sont négligeables par rapport à ce qu'on a eu et où du coup on a beaucoup beaucoup moins de problèmes de santé. Ça fait 2 ans que je me préoccupe plus du fait qu'il fasse une crise de PSSM ou une crise de fourbure, quoi. Là, je pense qu'il y a très peu de propriétaires qui ont leur cheval au pré qui peuvent se dire ça. Là, on est fin février quand j'enregistre cet épisode de podcast. J'ai vraiment pas peur de la fourbure pour les 4 prochains mois. Je pense que si t'écoutes cet épisode de podcast et que si ton cheval est au pré, je pense que 80% d'entre vous ne peuvent pas dire ça, ne peuvent pas se dire « je suis totalement sereine pour le mois d'avril-mai » quoi, par rapport à la fourbure chez mon cheval. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, le retour d'expérience que je peux vous dire sur l'herbe, enfin sur la flore, la végétation qu'on a dans la parcelle. Alors, je suis peut-être un peu biaisée sur le côté-là. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a une flore, une diversité alimentaire, une diversité floristique qui se crée? Mais je suis peut-être un peu biaisée parce que c'est peut-être aussi le fait que je passe plus de temps à gérer les parcelles. Et donc, du coup, j'apprends à connaître la diversité floristique et donc la diversité alimentaire de nos chevaux. Et le point que je remarque, c'est vraiment, le point que j'ai vraiment appris, c'est que une parcelle, c'est comme une prairie. On a 8 parcelles, on n'en a pas 2 identiques. On a une parcelle où on a des genêts, mais il n'y en a pas dans les 7 autres. On a une parcelle où on a énormément de ronces, il n'y en a pas dans les 2 autres, enfin dans les 8 autres, dans les 7 autres. On a une parcelle où on a de la mousse qui pousse à un endroit, mais on n'en a pas de mousse dans les 8 autres. Et donc vraiment, c'est un truc que j'apprends à individualiser l'herbe, en fait, à individualiser les apports alimentaires fournis par la flore sur place. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprends à connaître, et donc j'ai l'impression qu'on a plus de diversité alimentaire qui se crée. Je pense qu'il y a un biais de mon côté. Par contre, il y a un point, c'est que la première année, le premier printemps, on avait beaucoup de sénessons. Et donc on a beaucoup arraché. Et la deuxième année, on a eu moins de sénessons. On a eu vraiment beaucoup moins. Alors, c'est que une expérience sur 2 années, donc peut-être que c'était juste des conditions météorologiques, ou est-ce que c'est notre arrachage qui fait qu'on a moins de sénessons, donc notre gestion de prairie qui fait qu'on a moins de sénessons. Et le dernier point, c'est que sur la flore, on a un terrain sableux, mais on n'a pas de porcelle enracinée. La porcelle enracinée est une plante qui adore les terrains sableux et secs, mais qui n'aime pas trop la compétition floristique, enfin qui apparaît en fait quand il n'y a pas d'autres plantes qui peuvent prendre sa place. Et donc, je suis vraiment contente parce que nous, on arrive à maintenir en fait une compétition floristique, c'est-à-dire favorable aux graminées en fait. C'est-à-dire qu'on a plus de graminées qui s'implantent que de porcelles. On n'a pas de porcelle qui s'est implantée. Donc je suis très contente de ça. Je trouve que notre gestion de l'herbe, en tout cas, a l'air de s'améliorer d'une année sur l'autre. Alors je sais que 2 ans, d'un point de vue agronomique, c'est très court hein, comme temps. Mais j'aime vraiment bien l'évolution que prend notre flore. En plus, l'année dernière, on a eu des apiculteurs qui se sont installés et qui reviennent avec leurs abeilles cette année. Ils étaient partis pendant l'hiver. Donc c'est vraiment un bon bonus pour la flore et je suis vraiment ravie qu'ils se soient installés à côté. Ensuite, je vais passer sur le retour d'expérience sur le sol. Alors, comme pour la flore, je sais que 3 années d'expérience, enfin 2 années et demie d'expérience pour un sol, c'est très peu. Hein. Très très peu, voilà, c'est vraiment peu. Mais toujours est-il que j'ai envie de vous le faire quand même. Et que même après juste 2 ans et demi, qui est très peu à l'échelle d'un sol, on remarque quand même des choses. Alors, je rappelle qu'on part avec un gros avantage pour la gestion du sol, c'est qu'on a du sable. On a vraiment du sable ultra net, on n'a pas besoin de stabiliser, on a des conditions qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on peut se promener en basket toute l'année dans notre pré sans avoir les chaussettes mouillées. Ça, encore une fois... Je pense pas qu'on puisse le dire dans beaucoup d'autres endroits, sauf peut-être les écuries actives qui sont très bien stabilisées. Mais notre expérience, quand même, sur le sol, on a eu une expérience. Et cette expérience, c'était sur le ramassage de crottins. C'est-à-dire que la première année, donc je vous ai dit, on était 3 chevaux et 2 humaines. Et le premier hiver, on s'est vraiment dit, non, on ne ramasse pas les crottins. On veut pas passer notre temps à ramasser des crottins. Non, mais on n'est pas comme ça, nous. Donc, on n'a pas ramassé les crottins le premier hiver. Et franchement, c'était relativement ok. C'était plutôt ok, nos chevaux n'avaient pas les pieds dans la boue, enfin voilà. Et le second hiver, on a dit, bon, on fait pareil que l'année prochaine, quoi. On ramasse pas les crottins, quoi. Et donc on n'a pas ramassé les crottins. Et là, par contre, c'est devenu la cata, ou la caca. Voilà, dans le paddock d'hiver, en tout cas, c'était vraiment dégueu. Donc on s'est retrouvé à ramasser, en fait, 2 années de crottins en fin d'hiver. Et on a bien ramassé. Hein. Franchement, on a fait un gros boulot, on a fait un énorme boulot. On y a passé des heures et des heures à ramasser parce que on n'est pas mécanisé, donc on l'a fait au râteau. Hein. Et en fait, il y a des endroits où on a très bien ramassé et forcément, au bout d'un moment, on a quand même fatigué. Donc il y a des endroits où on a moins bien ramassé. Et on voit les traces des endroits où on a moins bien ramassé le crottin et le vieux foin. C'est des endroits qui sont clairement boueux. Ils sont clairement dégueulasses, hein. Clairement où nos chevaux s'enfoncent jusqu'au pâturon. Donc ouais, on voit vraiment les traces. Et donc ça, c'est un de mes apprentissages. Si on confine les chevaux dans une certaine zone, c'est trop petite pour eux, le ramassage de crottins devient vraiment essentiel et indispensable. Et un autre point, c'est que nous, notre paddock d'hiver, il est sous les arbres. Donc c'est une zone où naturellement on avait peu de pousses d'herbe. Par contre on avait beaucoup de pousses de ronces. Beaucoup de pousses de ronces. Donc de confiner les chevaux sur cet endroit, en tout cas c'est... Bah oui, ils ont écrasé les ronces, donc on a moins de ronces dans le paddock d'hiver. Les ronces arrivent moins à pousser. Et honnêtement, je pense que je réfléchirais différemment si on n'avait pas ces arbres et si on avait de la prairie. Je pense que ce serait réfléchi différemment la compétition entre de l'espace sec, de l'espace pour nos chevaux et de l'espace de prairie, de l'espace alimentaire. Je pense que si on n'avait pas d'arbres, j'aurais peut-être eu tendance à favoriser, en fait, à réduire la zone de paddock d'hiver pour favoriser la surface de zone d'herbe, de zone de fourrage. Je pense que c'est une réflexion que j'ai. Je pense que c'est une réflexion qui est intéressante à avoir, de se dire, bah, quels sont, si je permets à mes chevaux d'avoir beaucoup de mouvement, qu'est-ce que je sacrifie à côté? Est-ce que je sacrifie des espaces de fourrage? Et donc, bah, de se poser la question de trancher, en fait, entre ces deux compétitions. Et c'est aussi un point que je retiens sur toute la gestion de prairies, c'est qu'il y a vraiment des compétitions à trancher. Il y a des points à trancher à... On peut pas tout favoriser. On peut pas tout favoriser sauf à avoir énormément d'espace, de temps et d'argent. Donc il y a des choses à favoriser. Est-ce qu'on privilégie l'écologie? Est-ce qu'on privilégie nos chevaux? Enfin, le mouvement de nos chevaux? Est-ce qu'on privilégie une diversité alimentaire? Est-ce qu'on privilégie une quantité de fourrage? Enfin, il y a vraiment des choses à se poser. Et moi, c'est une question que je pense que j'aurais si je reprends une nouvelle parcelle. C'est l'interrogation sur le fait de faire des pistes. Parce que les pistes, ok, ça impacte le déplacement des chevaux, potentiellement. Mais ça va aussi impacter le temps de ramassage des crottins, qui va être plus long parce que les humains ont plus de distance à parcourir. Et ça va impacter les zones potentiellement enherbées. Donc je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur le confinement des chevaux en hiver. Et sur quelle surface on les confine, quelle est la configuration de cette surface. Je pense que c'est une question très importante à se poser. Je vous ai parlé du temps de ramassage des crottins, ce qui en vient au retour d'expérience pour les humaines. Et notamment par rapport au ramassage de crottins, une humaine par cheval, c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Parce qu'en fait, du coup, proportionnellement, on a moins de quantité de crottins à ramasser chacune. Alors que quand peu d'humaines pour plus de chevaux, forcément, ça fait plus de crottins à ramasser. C'est aussi, du coup, une des questions qui me fait penser à la mécanisation. Franchement, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai rêvé d'un Manitou. Où j'ai rêvé d'avoir un petit engin agricole avec un godet ou une fourche au bout. Vraiment, c'est une très grande question à se poser. L'aspirateur à crottin, peut-être pas, mais un petit tracteur multifonction, ouais, je l'ai vraiment... J'aimerais vraiment, là, si je pouvais avoir en un claquement de doigts quelque chose qui arrive au pré, ce serait un Manitou. Ce serait un petit chargeur universel, quoi. Enfin, un petit chargeur multifonction. Et après, pour la gestion des humaines, je pense que c'est... Enfin, moi, un des points que je retiens, c'est que c'est important de poser des conditions minimales pour tout le monde. Quels sont les besoins des chevaux et quels sont les besoins des humaines pour pouvoir gérer de la pension de la manière la plus pérenne possible. Donc ça, c'est, et je dis des conditions minimales, parce que à côté, il faut aussi pouvoir accepter l'imprévu. Donc il faut avoir des humaines qui sont quand même vachement résilientes et qui sont capables de réagir quand ça se passe pas comme sur le papier. Parce qu'honnêtement, il y a vraiment pas grand-chose qui se passe comme sur le papier. On peut jamais tout prévoir. Donc c'est un point qui, pour moi, est important. Voilà mon retour d'expérience, du coup, de 2 années et demie de gestion de prairies. Alors, il y a peut-être un point que j'ai oublié encore sur la mécanisation, c'est l'aspect distribution du fourrage. Nous, on n'est pas mécanisé. Hein. On n'est pas mécanisé, donc nos boules de 200 à 250 à 300 kilos, on les pousse seuls. Ou à deux. Mais des fois, on les pousse seuls. C'est aussi une question à avoir hein, sur la gestion des humaines. Est-ce que les humaines sont capables de fournir la quantité de travail physique? Voilà, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mon retour d'expérience sur la gestion de prairies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est murmure.animal. Et je trouve que pour la gestion de prairies, c'est vraiment très individualisé aussi. Ça dépend de la parcelle, ça dépend des chevaux, ça dépend des humaines. Et du coup, la semaine prochaine, c'est un épisode de podcast inédit. Franchement, c'est un format de podcast, d'épisode de podcast inédit que je vous propose. C'est un format de table ronde où, j'ai pas fait le montage, mais je crois que 12 personnes qui gèrent des prairies, qui gèrent leurs chevaux, vous donnent leurs conseils, leur retour d'expérience, leurs conseils essentiels pour apprendre à gérer les prairies. Cet épisode a été fait dans le cadre d'une rencontre entre personnes qui gèrent leurs prairies elles-mêmes. Et vraiment, je suis ravie de vous le proposer, ça va être un épisode génial. Je vais pas vous citer toutes les personnes qui sont dedans pour l'instant, mais c'est vraiment un épisode que je suis ravie d'avoir tourné, parce que je trouve ça unique de pouvoir vous proposer, en fait, 12 conseils de personnes qui ont expérimenté le truc, en fait. Et quels sont les conseils essentiels pour pouvoir gérer des prairies et des chevaux. Je pense que ça s'entend dans ma voix à quel point je suis excitée de cet épisode, à quel point j'ai kiffé faire cet épisode. Donc j'espère que vous l'adorerez autant que moi et que ça vous a donné envie de revenir la semaine prochaine pour l'écouter. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.